Alors, nous vivons dans une société de spectacle. Pour exister, il faut se montrer, être vu sur les réseaux, être suivi, être liké si possible. Si tu ne te montres pas, tu n'existes pas. Alors à tous les niveaux, on parle de transparence, votre vie doit être mise en avant, mise en lumière, montrée, valorisée. Que les informations soient honnêtes ou non, peu importe, vraies ou fausses, peu importe. Alors au risque de vous surprendre, je milite pour un certain droit à l'opacité, à l'intimité. Je me suis beaucoup interrogée ces derniers temps à la place que l'on faisait aux silencieux, à la place que notre société leur laisse. Alors il y a les taiseux de nature, les autres qui aiment et cherchent la solitude et le silence, et il y a ceux qui se taisent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Alors nous allons nous plonger ce matin dans une rencontre que Jésus a faite avec le sourd muet, un silencieux contraint. Alors comment Jésus l'a-t-il accueilli? Et que pouvons-nous retenir de cette rencontre pour nos vies et notre rapport au silence? Alors je vais vous lire ce passage que tout le monde connaît bien dans Marc au chapitre 7. Du verset 31 à 37, donc cette fameuse rencontre. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha, sois ouvert ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Alors dans beaucoup de récits de guérison, c'est le malade qui vient à la rencontre de Jésus. Par exemple dans le cas du lépreux ou de l'aveugle dont tu as fait le récit partiel ce matin, où c'est Jésus lui-même qui initie la rencontre, avec l'homme à la main sèche par exemple. Ici, rien de tout cela. Silence sur l'initiative de la rencontre. C'est quelqu'un d'autre que Marc désigne de manière assez imprécise par « on lui amena le sourd muet ». Pas plus vague que cette expression « on ». Alors on va supposer pour l'instant que c'est la foule. Mais toutefois, silence sur qui prend l'initiative de cette rencontre. Dans certains passages aussi, Marc prend soin d'exprimer ce que Jésus ressent, ses sentiments. Il est pris de pitié devant la foule affamée, il est irrité devant la démarche du lépreux. Ici, silence sur les sentiments qu'éprouve Jésus. Mais cela ne l'empêche pas d'agir. Jésus se trouve à ce moment précis en terre étrangère. Même si le sourd muet est païen, cela n'empêche pas Jésus de répondre à sa demande d'imposition des mains de ceux qui l'amènent à lui. Silence sur la foi du sourd muet. La foi de la foule apparaît discrètement dans la demande et dans la prière qui est adressée à Jésus. Mais qu'en est-il du malade? Quelle est sa foi? Quelle est sa motivation? Marc n'en dit rien, ni avant, ni après le miracle. Jésus, d'ailleurs, non plus ne fait aucun commentaire à ce sujet, alors que dans d'autres récits, il met en avant la foi des malades et il leur dit « Va, ta foi t'a guéri ». Alors oui, cet homme est muet, vous allez me dire, mais il aurait pu exprimer sa foi autrement, comme d'autres avant lui, se jeter aux pieds de Jésus, toucher son vêtement. Silence sur la foi du sourd-muet. Contraste avec Jésus, les gestes de Jésus à ce moment-là. Marc décrit minutieusement les gestes de Jésus. D'abord, il prend le sourd-muet à l'écart. Il l'isole. Il met les doigts dans ses oreilles. Il crache, il lui touche la langue. Alors voici donc un homme qui n'a cessé d'être pris en charge toute sa vie et qui accepte maintenant docilement toutes les interventions de Jésus. Passif, il se laisse faire. Son cœur semble impénétrable, on n'en sait rien. Et pourtant, devant ce cœur silencieux, Jésus, sans la moindre hésitation, perce le mystère. Il prend en charge l'homme. Jésus dira un seul mot, Ephphatha, sois ouvert. Jésus ne condamne pas le silence du sourd-muet, il lui ouvre de nouvelles perspectives. Le malade souffre d'un extrême isolement qui transparaît dans sa totale passivité. Marc nous dit que cet homme est sourd-muet, molylagos en grec, utilisé seulement à cet endroit dans le Nouveau Testament. Alors ce mot dénote que pour cet infirme, l'effort de la parole, l'alos, représente une énorme souffrance, mogi. Alors le mutisme de cet homme s'explique par son infirmité, mais il existe autour de nous, proches ou lointains, des hommes et des femmes mutiques. Mutiques car la souffrance a verrouillé leurs paroles. Combien de réfugiés, de prisonniers, d'endeuillés, de maltraités se retrouvent mutiques, incapables d'exprimer leur souffrance. Combien de jeunes, de moins jeunes, oppressés, n'arrivent pas à verbaliser leur mal-être et se retrouvent seuls dans une extrême souffrance, comme ce sourd-muet. Le sourd-muet ne peut recevoir aucune parole et ne peut exprimer aucune parole. C'est un homme complètement verrouillé et replié sur lui-même que Jésus prend en charge. Alors que va dire Jésus ? Pas grand-chose en fait. Rien ou pratiquement. Ce Ephphatha, seul, sera le mot de cette rencontre. Sois ouvert. Mais avant de lui dire ça, Jésus va utiliser ses mains pour parler. Il va procéder à une série de gestes sur lesquels il est bon de s'arrêter. Car à travers eux, c'est tout un dialogue silencieux qui se met en place. L'homme, pris en charge, peut communiquer avec Jésus. Il a le regard, il a le sentiment, il ressent les gestes de Jésus à son égard. Alors Jésus, tout en gardant le silence, va procurer au sourd-muet une série de gestes expressifs. Il va mettre les doigts dans ses oreilles, il va lui toucher la langue. Un long silence va précéder le mot libérateur, Ephphatha, sois ouvert. Jésus prend l'infirme par la main. Il l'isole, loin de la foule. Intimité. Coupure avec le brouhaha de la foule, avec le brouhaha du monde. Celui qui souffrait d'isolement, il va se retrouver encore plus isolé, mais en tête à tête avec Jésus. Seul, en tête à tête. Passage obligé. En tous les cas, l'homme se laisse faire. Rien que cela, il se laisse faire. Mais c'est déjà énorme. En sommes-nous capables, nous ? Sommes-nous capables de baisser les armes, de ne pas essayer de régler nos difficultés par nous-mêmes, avec nos propres forces ou par des ressources extérieures. Le fait de se mettre à l'écart induit l'idée de la prière. Chaque fois, rappelons-nous que Jésus se met à l'écart, c'est pour prier. C'est pour retrouver l'intimité avec le Père, que ce soit dans la montagne ou dans le désert. Alors Jésus, en silence et en acte de prière, va procéder à une série de gestes comme un thérapeute. Il prend toutes les initiatives, aucune initiative du malade qui n'en a probablement plus la force. Jésus reste seul à faire les gestes, mais le malade, lui, mis à l'écart, n'est distrait par rien d'autre. Toute son attention est retenue par les gestes de Jésus. Le texte nous dit qu'à la fin de ses gestes, Jésus lève les yeux au ciel. Alors même pour le païen qu'est ce sourd-muet, il comprend certainement que si Jésus lève les yeux au ciel, c'est dans un acte de prière. Si Jésus éloigne le malade de la foule, c'est pas pour l'isoler encore plus, ou se l'accaparer d'ailleurs, mais c'est pour l'ouvrir. Paradoxe. L'ouvrir à la présence de Dieu dans le silence. Le silence et la solitude sont, à mon sens, ces moments-là de rencontre précieuse avec Dieu. Ces moments où l'on est pleinement soi, loin de la société spectacle, loin de notre image sociale, loin de notre image en famille, loin de notre image professionnelle, où on peut enfin baisser les armes, seul, en tête à tête, avec Dieu. Ce sont ces temps à l'écart où fondamentalement Dieu entre en dialogue avec nous. Le silence est un chemin d'humilité pour Jésus aussi qui accompagne. Si vous avez, et on l'a tous eu l'occasion, de marcher à côté de gens en souffrance, ne pas trouver de mots à dire, c'est faire preuve d'humilité. Il y a parfois des silences qui parlent. Et oublier cela expose l'orgueil quiconque accompagne quelqu'un, accompagne un souffrant et pense pouvoir trouver tous les mots à chaque fois, à tous les coups. Alors revenons à la façon dont Jésus est venu guérir cet homme mutique. Pour la première fois de l'évangile, on voit à ce moment précis Jésus prier devant un païen, pour un païen qui n'a pas exprimé sa foi. Grand défi quand même. Hein. Cet homme était silencieusement en souffrance. On l'a remarqué, on l'a amené à Jésus, qui l'a mis à l'écart. Quelle est la prière de Jésus à ce moment-là ? Il gémit, nous dit le texte. Telle est la prière de Jésus devant le sourd-muet, un gémissement. C'est l'unique fois où l'Évangile nous rapporte une telle prière de la bouche du Christ. Un gémissement. À la croix, il crie, mais là, même pas. Un simple gémissement. Alors nous sommes parfois gênés devant Dieu de nos prières réduites à des gémissements. Nous avons honte, un peu, de ne pas trouver les mots qui expriment notre souffrance. Jésus, lui, n'a pas honte. Et là, il nous laisse un extraordinaire témoignage, un gémissement comme prière. Cette prière va nous déculpabiliser et nous débarrasser de notre honte, de notre volonté de vouloir bien trouver les mots, faire tout comme il faut. Non, Jésus nous dit, un gémissement suffit parfois. C'est une extraordinaire bonne nouvelle que nous pouvons transmettre à tous les verrouillés, à tous les silencieux, à tous les souffrants qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments et leurs requêtes. Dieu entend les gémissements. Voilà la bonne nouvelle de cette rencontre. Dieu entend les silences, et c'est ce que dit ce récit. C'est la prière du pauvre dans la souffrance. Un cri cherche encore une oreille humaine, mais un gémissement n'en a même plus la force. Et pourtant, Dieu l'entend. Jésus est resté silencieux tout au long de son intervention auprès du malade. Il aurait pu l'évangéliser, lui dire des tonnes de choses. Non, il choisit le silence. Si nous nous rappelons que Jésus se met souvent à l'écart pour prier, on peut penser que cette mise à l'écart était déjà une forme de prière. Parce que le gémissement a émergé du silence. Lorsque Jésus se met à gémir, il le fait devant un homme qui ne sait faire que cela. Et là, ce texte nous rappelle aussi que Dieu se met à notre portée. Il vient nous rejoindre dans notre pauvreté de langage qui nous frappe parfois. Il entre dans nos enfermements, sans jugement, mais pas pour y rester. Parce que s'il met le sourd-muet à l'écart, c'est pour l'ouvrir à une nouvelle dimension, vers de nouvelles perspectives. « Sois ouvert, lui dira-t-il. » Alors, en étudiant le texte, j'ai découvert qu'en araméen, cette forme verbale est à la fois un réfléchi, c'est-à-dire « ouvre-toi », qui est ta propre action, et un passif, qui est « sois ouvert », qui met l'accent sur l'action de Dieu. Ouvre-toi et sois ouvert. Cet homme, une fois guéri, a dû entendre à l'écart non plus le silence de l'enfermement dans lequel il était, mais peut-être le silence du désert, un silence tout neuf, ouvert, qui va à la rencontre du Dieu vivant. Dans ce silence-là que Dieu nous invite à fréquenter, on perçoit une écoute qui invite à parler un autre langage, qui est peut-être juste celui du gémissement, mais où l'écoute de Dieu est prête à accueillir et à recueillir ses gémissements et ses questionnements. Alors quel paradoxe ! Le miracle de la parole s'accompagne du miracle du silence qui écoute. À tous les silencieux, les verrouillés, les mutiques, qui ont épuisé pour un temps ou fréquemment leurs mots, ce texte nous ouvre des perspectives et nous donne des nouvelles ressources à travers le gémissement. Alors non pas un gémissement douloureux, mais un gémissement, un abandon confiant. Alors je me suis demandé qui était ce « on » dont fait mention Marc au début du récit et qui amène le malade à Jésus. Alors la foule bienveillante, hein, c'est effectivement ce qu'on comprend dans une lecture, première lecture. Mais j'avais envie de voir un peu plus loin ce matin. Je me suis dit, mais finalement, qui a vu en premier la souffrance de cet homme ? Qui a entendu sa plainte inaudible et a impulsé la toute première initiative de la rencontre? Alors j'aime à penser qu'une main aussi humble et discrète que celle de Dieu a poussé cette rencontre dans un certain mystère. Oui, j'aime à penser que Dieu est le maître de nos vies, que Dieu entend nos silences. Alors, peut-être relisons cette semaine nos vies et découvrons grâce à l'Esprit que c'est Dieu le Père qui conduit nos existences, même si on n'en a pas toujours conscience. Et c'est Dieu le Père lui-même, de sa main discrète et bienveillante, nous pousse à Jésus et nous pousse à la rencontre. Alors oui, je milite pour nos vies, pour celles de tous les silencieux et les verrouillés, je milite pour le droit à la solitude ponctuelle, pour le droit au silence. Alors respectons les silences de ceux qui nous entourent quand ils en ont besoin. Et ce n'est pas toujours facile. Et peut-être rappelons-nous à ce moment-là comment Dieu les a abordés, comment il a accueilli leurs gémissements. Résistons au bruit ambiant, et ce n'est pas facile. Résistons au moins ponctuellement à l'agitation du monde pour trouver des mises à l'écart, afin que Dieu vienne nous renouveler, nous toucher et ouvrir des nouvelles perspectives. Parce que comme on l'a chanté, Dieu fait de grandes choses. Alors laissons-lui l'occasion de transfigurer nos silences fermés en des silences ouverts.